Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Bonjour Justine Beau, je suis heureuse de vous rencontrer pour parler de votre roman Fils de Cham, paru chez Diabase en février dernier.
Mars dernier.
Oui, c'est
pratiquement pas.
Alors, je suis heureuse de vous rencontrer à plusieurs titres. D'abord parce que Fils de Cham est votre premier roman. Et c'est assez émouvant de rencontrer un auteur quand il est aux prémices de son art. Et puis, je suis aussi heureuse parce que votre livre est édité par une maison d'édition Tourangelle. On est un petit peu chauvin, nous, en Touraine. Il s'agit donc de Diabase, dont le siège est situé dans la commune de La Riche. Alors, votre éditeur vous accompagne aujourd'hui, vos éditeurs. On leur laissera peut-être la parole tout à l'heure. Tout, même s'il s'agit d'un court récit, il est assez difficile. Difficile, bien sûr, par le sujet, mais aussi par la forme que vous utilisez. Et puis, sur le fond, bah, vous évoquez la guerre civile en Syrie, où vous trouviez quand elle a éclaté en 2011.
Exactement.
Alors, pour ça, vous utilisez une narratrice que moi, j'ai trouvée très déstabilisante. Elle est là, c'est elle qui parle, qui raconte ses souvenirs. Elle est là et pourtant, elle est absente. C'est très étonnant.
Tout à fait. J'ai choisi de ne pas la nommer, de ne pas la situer, de ne pas lui donner d'âge, même si on devine qu'elle est assez jeune. C'est une personne qui est en perte de repère, donc impossible de l'identifier.
Mmh. Alors, en perte de repère, principalement parce qu'elle vit la guerre civile en Syrie.
Oui, c'était l'un des enjeux incarnés, cette perte de repère ultime qui est la révolution. Il y a une perte de valeur, perte de notion du temps, et la violence qui fait qu'on est, en questionnement constant.
Mm-hmm.
Elle décide de se replier dans un lieu isolé et les souvenirs resurgissent.
Alors je disais que Fils de Cham est difficile à lire, vous utilisez un style brut, vous ne vous embarrassez pas de jolies phrases, particulièrement quand vous racontez l'acte que commet cette femme, cette narratrice, et vous plongez le lecteur dans l'horreur la plus totale immédiatement. Moi j'avoue que j'ai failli refermer votre livre avant la fin du premier chapitre.
C'est le passage test.
Effectivement, oui, c'est vraiment le test. Hein. Mais votre force, malgré cela, c'est d'avoir réussi à éveiller ma curiosité. On a envie d'en savoir plus sur cette femme, on a envie de savoir comment elle en est arrivée là.
Mm-hmm. Effectivement, tout le monde est choqué par ce premier passage, et ce d'autant plus que c'est le premier passage. Mm-hmm. C'était ça que je trouvais intéressant, c'est-à-dire qu'elle reproduit une violence qu'on pourrait dire décuplée, mais après tout, la révolution en Syrie ne s'arrête pas à un infanticide. Les massacres dont on entend parler tous les jours en témoignent. Et c'est ça qui me paraît intéressant, justement, c'est que tout le monde est particulièrement choqué par ce premier passage. Et finalement, est moins choquée par le reste, qui est le récit des débuts de la Révolution. Pourquoi ce premier passage ? Parce que, justement, c'est une métaphore de cette violence et de cette femme qui veut se souvenir.
Alors, vous décrivez assez bien l'atmosphère syrienne. Enfin, moi, je dis ça parce que j'ai passé quelques années au Moyen-Orient, comme mm-hmm. vous, quand j'étais enfant. Donc, alors, les scènes au tribunal et l'évocation du procès sont particulièrement réussies et sonnent justes. Vous restituez bien le climat de la dictature, de ce que mm-hmm. peut être une dictature, l'oppression et le chaos syrien. Alors, chaos finalement antérieur à la révolution. Enfin, c'est là.
Oui. Antérieur et disons chaos des valeurs, et puisque effectivement pas de liberté d'expression, des procès qui n'ont ni queue ni tête, des gens qui sont enfermés pour un oui, pour un non, et en même temps on se situe au tout début, aux prémices de la révolution, donc le chaos qui ressurgit justement de ces lieux de justice ou d'injustice, et qui se matérialise avec les débuts de la révolution.
Et un personnage qui m'intrigue particulièrement, c'est celui de ce vieil opposant communiste.
Qui est bien réel, d'ailleurs.
Ouais. Oui, parce que vos personnages sont vrais, en fait. Ils ont tous...
Celui-ci, bon, pas tous, parce que c'est avant tout des personnages de fiction. Il s'inspire évidemment de personnages réels, mais celui-ci est effectivement inspiré d'un vieil opposant communiste qui existe véritablement. Et d'ailleurs, certaines de ses phrases sont exactement en substance des phrases qu'il m'a dites.
D'accord. Alors, là où il m'intrigue, c'est qu'on a le sentiment qu'il souhaite ou souhaitait finalement, d'une certaine manière, que rien ne change.
C'est pas tout à fait son discours. Lui, encore une fois, on est au début, au temps des premières manifestations. Lui a toujours eu envie que cela change. D'ailleurs, le personnage a passé des années en prison. Les opposants communistes ont été durement réprimés et par Hafez et par Bachar. Lui, son discours, c'est de dire finalement, encore aujourd'hui, le pouvoir peut se réformer. Sans que l'on tombe dans un conflit armé. Et l'une de ses dernières phrases, c'est de dire « il est trop tard ». Donc malgré tout, une envie de changement, même si une très grande peur de la guerre civile.
Mmh. Comme si finalement on s'habitue à l'oppression, à la dictature
Je ne dirais pas qu'on s'y habitue. Ce qui est pervers dans la dictature, c'est qu'elle tue... en amont, les oppositions qui peuvent naître. Mais s'y habituer, je ne pense pas, parce que même si on se résigne, même si on se tait, l'habitude n'est pas là. Enfin, c'est en tout cas dans le livre, il me semble qu'aucun des personnages ne s'y est habitué.
Alors, on va rapidement évoquer, si vous voulez bien, votre rencontre avec votre éditeur, parce que vous venez de Cherbourg, vous êtes originaire de Cherbourg, et puis vous trouvez un éditeur à Tours, enfin à La Riche. Comment ça s'est passé ?
Oui, moi je vis à Paris, et ça fait très longtemps que je ne suis plus à Cherbourg, mais c'est un ami, en fait, qui a envoyé le manuscrit, et
d'accord.
Voilà.
D'accord. Et du coup, alors, vous venez de répondre à une de mes questions, le manuscrit remis était complètement abouti, vous n'avez pas échangé au fur et à mesure de l'écriture.
Si, il y a eu des échanges entre nous et des restructurations, mais je dirais que la substance était là. D'accord, je le vois qui acquiesce, je n'ai pas dit bêtises.
Il acquiesce. Est-ce qu'il veut bien nous en dire quelques mots de votre livre, votre éditeur?
Oui, mais c'est pas à ma place que de parler à la place de l'auteur. Le manuscrit, effectivement, nous est arrivé et le premier chapitre, comme vous le disiez tout à l'heure, a retenu fortement l'attention. Il nous est arrivé par Internet, en réalité, via un ami de Justine. Moi qui ne lis jamais sur écran, j'ai pas pu m'arrêter au premier chapitre et j'ai lu d'emblée le texte entier. Et la première chose qui a frappé, c'est le souffle du premier chapitre et la réussite littéraire du premier chapitre, le choix littéraire qui a été fait, révélait d'emblée une auteure dont on ignorait l'âge.
Ouais.
Il faut quand même souligner que...
Mais il est toute jeune, non ?
Justine l'a écrit à 23 ans, je crois. Donc on peut à cet âge-là dire encore l'âge.
Mais
là, tout âge. Et donc j'ai lu jusqu'au bout parce qu'il y avait un vrai souffle. Et il y avait un souffle littéraire et il y avait un souffle du sujet. Il transporte. Certes, il est violent, mais il est tellement puissant, il est tellement juste dans l'évocation que on est entraîné, on est happé. Et d'emblée, il fait partie pour nous des textes dont on est sûr qu'on les publiera, parce que même s'il y avait, comme disait Justine, quelques restructurations à faire, c'était vraiment c'était mineur en réalité. Et le livre était écrit, était abouti, mais je crois, elle vous le dira tout à l'heure peut-être aussi, elle l'a écrit elle-même dans un vrai souffle. Voilà, je crois que c'est suffisant.
Dans un souffle court.
Racontez-nous alors justement les circonstances.
Tout simplement, je l'ai écrit en 3 semaines, j'étais chez mes parents et je me suis consacrée pendant 3 semaines. Donc c'était un écrit court, pour un texte court et intense.
Vous aviez l'intention de éventuellement le proposer à des éditeurs ou...
C'est pas une question que je me suis posée à ce moment-là, et c'est d'autant plus que c'est venu assez vite, en fait. Mais oui, bien sûr, enfin, j'ai pas tendance à écrire en me disant que ça restera dans mes tiroirs toute ma vie, mais je crois que j'ai pas eu véritablement le temps de me poser la question et de préméditer les choses.
Effectivement, il y a un souffle assez... assez déstabilisant dans votre livre. Vous avez l'intention de continuer à écrire ?
Oui, absolument.
Oui, vous écrivez quelque chose en ce moment ?
Oui, mais c'est en construction.
On en parle pas.
Construction.
D'accord, et on imagine qu'on vous retrouvera chez Diabase pour votre prochain livre.
Bien sûr.
D'accord.
Inch'Allah. Si...
Inch'Allah. Enfin, merci beaucoup, Justine Beau, pour ces quelques minutes. Vous rencontrez vos lecteurs tout à l'heure à la boîte à livres.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc c'est
j'ai très peur.
Vous avez très peur.
On va me prendre pour une psychopathe à cause du premier chapitre. C'est terrible.
C'est ça me vient pas, mais le petit quelque chose de l'auteur, finalement, vous avez tous les droits.
Oui. Okay. C'est vrai.
Bravo, merci beaucoup, Justine Beau, et puis à bientôt, j'espère.
Merci à vous.
Au revoir.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.